Dans cet épisode, Aline nous emmène dans un voyage coloré, mêlant Dolce Vita, douceur de l'enfance et légèreté sur certaines vérités. À son contact, la poésie de l'ancien nous séduit et ravive le cœur de souvenirs chaleureux, gourmands et innocents. Elle nous ouvre sa porte comme une porte d'embarquement vers la botte de saveurs gorgées de soleil et de générosité. Elle nous fait voyager avec sa voix en radio, ses mots dans son livre et ses recettes chaud doudou, empreintes du soleil de Sicile. Aujourd'hui, elle nous offre tout cela dans ces précieux mots que vous allez écouter. Aline m'a raconté son enfance, celle de la petite Aline les mains dans la farine, s'imprégnant des gestes de sa tati, lesquels aujourd'hui n'ont plus de secret pour elle. La naissance de sa passion pour la cuisine, sa construction professionnelle, des petits cadeaux de la vie et de deux grands bouleversements. Aussi, on a parlé de Marcello, de Pâte, de Pantelleria, de Palerme et de Florence, de son rapport au corps, de troubles alimentaires, de son travail en cuisine dans les quartiers isolés de Bruxelles et d'autres sujets tout aussi passionnants. Je vous souhaite de recevoir ces mots, comme Aline vous offrirait sa cuisine. Bonne écoute. Bonjour Aline.
Bonjour Fred.
Comment vas-tu ?
Ah bien, aujourd'hui bien. Et c'est important de dire aujourd'hui, parce que c'est important de pointer les jours où tout est aligné, où les choses sont relativement douces, pas extraordinaires, mais du coup ça devient pour moi extraordinaire de passer une très très bonne journée. Et notamment parce qu'on va parler toutes les deux.
Oui, je suis vraiment ravie de t'accueillir.
Moi aussi, je suis très flattée d'être la première, vraiment.
Merci.
Et je trouve que c'est un très très beau projet, donc je vais essayer de te dire au mieux les choses que tu voudrais savoir de moi.
Merci pour ça. On te connaît dans les cuisines, mais tu n'y as pas toujours été. Comment t'es-tu construite jusqu'à aujourd'hui ?
C'est quelque chose qui, pour moi, maintenant, semble évident parce que tout ce que je fais est relativement créatif et en tout cas lié à l'artistique. Donc, effectivement, j'ai toujours cru que j'allais devenir dessinatrice parce que je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Et ça reste la chose que je préfère au monde maintenant. D'ailleurs, je m'y suis remise beaucoup. Mais j'ai commencé des études de dessin et c'est quelque chose dont j'ai vite vu, donc c'était il y a une bonne vingtaine d'années, 25 ans, j'ai vite vu que c'était très très compliqué au niveau compétitif. J'avais un cours de photo à l'époque et donc j'ai commencé à faire de la photo et en quittant l'Académie des Beaux-Arts, je me suis mise à travailler à l'Acteur Studio pendant 7 ans. J'étais caissière à l'Acteur Studio et j'ai fait des cours de photographie et puis j'étais au 75, j'étais diplômée. Et la même chose que le dessin, je me suis retrouvée confrontée à... Je ne savais pas comment travailler en fait, vraiment pas du tout. Je ne sais pas comment la cuisine est rentrée dans ma vie. À part le fait qu'elle est rentrée dans l'enfance, on en parlera après. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui a déclenché le fait que tout à coup, je me suis dit, tiens, je vais en faire un métier. Ma sœur prenait des cours dans une école à Namur où tu peux aller pendant un seul jour par semaine faire des cours de cuisine et qui te donne un assez bon diplôme. Je l'ai suivi la première année, elle a arrêté, moi j'ai continué. Mais je ne sais pas ce qui a déclenché cette envie. Donc c'est très étrange. Par contre, peu de temps après, quand j'ai compris que je m'y plaisais, de cuisiner. J'ai vite amené à la cuisine du dessin, des couleurs, de la photographie, de la créativité. J'ai vite compris, en fait, que pour moi, ça restait la même chose, sauf que je savais gagner ma vie beaucoup plus facilement. C'était ça le but. Voilà, et je voulais être indépendante. Quand j'étais diplômée, finalement, j'avais 30 ans. Et c'était vraiment important pour moi de recommencer une vie où je pouvais me sentir à l'aise financièrement et être heureuse à y travailler. À part que je me suis vite retrouvée à sentir les limites de mon désir de travailler en restauration. Donc, je me suis vite réinventée. Je me suis vite dit, OK, il faut que je construise un travail autour de la cuisine qui me fait gagner ma vie, mais où je ne devrais pas me lever tous les jours et faire la même chose, avoir ce stress de cuisine. Aussi, le milieu était devenu très compétitif. Il y a 10 ans, ça commençait. Ça l'est encore plus maintenant. Mais alors, vraiment, là... Et donc, j'ai commencé à donner des cours de cuisine, des tables d'hôtes, que je donne plus maintenant, qui étaient dingues. C'était génial. Vraiment la meilleure époque de ma vie. Et puis, la presse, le stylisme culinaire, qui n'est plus vraiment présent maintenant parce que c'est de plus en plus, on est de plus en plus pas payé ou mal. Et la radio. Et donc, tout à coup, j'ai commencé à comprendre ce que j'aimais dans mon métier, c'est-à-dire que tous les jours soient différents, que tout me surprenne. Après, il y a des attentes. Hein. Je fais des traiteurs, je suis un peu à côté de mon téléphone comme un comédien qui a une pièce de théâtre, quoi, qu'on le demande. Donc, c'est un peu stressant, mais j'ai une base financière maintenant qui me permet de pouvoir vivre juste comme je veux. Et les extras sont des très bons extras.
C'est un très beau parcours.
Ouais, il est costaud, mais il est intéressant.
Oui. Est-ce que tes passions, qui sont le dessin et la cuisine, te viennent de ton enfance?
Effectivement, oui, c'est familial. C'est pas au sein de ma petite famille, c'est-à-dire de mes parents, mon frère, ma sœur et moi, où la cuisine n'était pas du tout au centre du foyer, mais c'est lié à ma tati, qui est mon arrière-grand-tante, ma marraine. J'en parle souvent sur les réseaux, je suis mon tonton dès ce soir. C'est quelqu'un qui a une présence très très forte dans ma vie, et donc c'était le mari de ma tati. Donc on n'a pas lien de sang, mais on a un lien plus fort que le sang. Et ce sont des personnes chez qui j'ai passé beaucoup mon enfance, beaucoup de week-ends, et où j'ai cuisiné et dessiné. Donc voilà, ça explique beaucoup. C'est pas que mes parents ne me donnaient pas cette place-là, c'est qu'ils n'avaient pas la place, avec leurs trois enfants, à donner à cet espace dont j'avais besoin. J'avais besoin d'une bulle. Je suis quelqu'un qui a toujours été très énergique, mais comme tous les gens énergiques, on a besoin de temps très très fort de solitude pour comprendre et pour se régénérer. Et j'avais déjà ça quand j'étais petite. Et je me souviens que comme ma tati et mon oncle Michel n'avaient pas d'enfants, j'étais un espèce de truc unique dans leur vie, dans leur quotidien quand j'arrivais chez eux. Il n'y avait pas ce privilège d'enfant roi, pas du tout. Mais par contre, on me foutait pas mal la paix. Et c'est encore un truc que j'adore, qu'on me foute la paix. C'est-à-dire que j'adore être seule parce que je sais que l'ennui n'existe pas. J'aurai toujours quelque chose qui va... À part si je suis très triste et de mauvaise humeur, et là, ça risque d'être vraiment dur. Mais sinon, je me vois au fond du jardin de curé en train de dessiner. Et surtout, chose importante, et ça, on va y revenir, mon amour de la cuisine, et j'ai compris après, est arrivé dans la cuisine de ma tati, qui faisait son pain en levain. Donc, j'ai encore son levain dans mon frigo, qui existe probablement dans 20 ou 25 maisons bruxelloises, puisque je le donne couramment. C'était très mystérieux pour moi, quand j'étais petite, de voir ses mains pétrir le pain. Et elle, par exemple, je me souviens que je lui demandais tout le temps de me montrer. Elle me disait « Non, non, prends un bâton et fais. » Et donc, du coup, j'ai déjà raconté pas mal. Mais pour moi, le pétrissage est le geste le plus normal. C'est comme se brosser les dents. C'est un mauvais exemple, mais je pétris comme je pourrais pétrir en chantant, en parlant, en dansant, en marchant.
Et c'est la première recette que tu as fait, alors?
Voilà. Ouais. C'est la première recette que j'ai fait. Je me souviens que Tati voulait pas me donner la recette parce qu'elle n'en avait pas. Et donc, j'ai dû apprendre à observer. Et à observer à partir de mes 6-7 ans jusqu'à mes 25-30 ans. Je continue à la regarder, à ne pas comprendre. Et même maintenant, le pain que je fais a des notes. Je peux avoir plus ou moins un pain qui ressemble à celui qu'elle faisait, qui est le pain préféré au monde. Mais non, c'est le mien.
Il n'a pas la même saveur.
Non, pas du tout. Mmh. Et c'est normal, mais c'est le mien. C'est... Les cadeaux de pain, on sait, hein. C'est des cadeaux fameux. Je me souviens que je n'ai jamais fait de CV pour entrer en cuisine. Mon truc à moi, c'était d'amener un morceau de mon pain au levain et une préparation que je faisais à côté. J'ai été prise à chaque fois.
Oh, génial.
Ouais. Bon truc pour ceux qui veulent passer un très bon entretien pour aller dans un très chouette restaurant. Il faut amener vos pépites que vous maîtrisez, qui dites de vous, quoi. Vraiment, c'est super important. C'est plus... Un CV en cuisine, c'est très compliqué quand même.
Mais c'est aussi donner un peu de soi par le goût et par les saveurs. Donc,
totalement. Oui, c'est pas parce que tu as travaillé dans 4 établissements merveilleux que tu es doué, en fait, et que tu sais prendre des initiatives, que tu sais dire ce qu'on est en cuisine. Je me souviens qu'on parlait de ça toutes les deux. Enfin, tu m'avais parlé du fait que, est-ce que quand on cuisine, c'est de l'amour, est-ce que c'est comme une maman? Quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais pour moi, pas du tout. C'est comme une amie, une amoureuse. Je suis pas maman et toute ma fibre maternelle est vraiment dédiée aux gens que je veux choisir, en fait. Mmh. Et à partir de ce moment-là, l'amour est absolu. Et je sais que ça peut être le cas quand on a un enfant, mais comme je n'en ai pas, je ne sais pas. Et c'est un réel choix, vraiment réfléchi. Je n'ai jamais ressenti l'envie ni le désir d'avoir un enfant, pratiquement et morphologiquement et biologiquement parlant. Autant on peut ressentir le contraire. Et donc, par contre, le fait de recevoir mes amis, c'est très, très important pour moi d'allumer 2 bougies, que les verres soient prêts, que j'ai bien choisi le vin, que si il ou elle préfère la bière, j'aurais choisi une bonne bière. Ouais, je vais pas faire un plat élaboré parce que j'aime bien rester à table avec les autres. Souvent, on reste au salon. Je vais choisir tous les bons petits produits. Ils seront accueillis. Pour moi, c'est super important qu'il fasse bon dans l'appart quand c'est l'hiver et que je sois détendue, donc disponible. Et donc, pour moi, la cuisine, c'est tous ces ingrédients-là qui sont réunis. disponibilité, chaleur, écoute de l'autre. Par exemple, il y a eu le début des demandes d'intolérance il y a une dizaine d'années. Mm-hmm. Et beaucoup de chefs râlaient. Et moi, j'ai toujours aimé ça. C'est même pas que ce mot intolérance. Mm-hmm. C'est leur goût, c'est leur corps. Et pour moi, ça reste les plus gros défis. Ça reste des défis que j'adore, en fait. Voilà. Essayer de comprendre comment je préfère plaisir à l'autre.
Faire plaisir, mais c'est aussi accueillir l'autre comme il est. Et je trouve que c'est très important, en fait, de respecter ça.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent le mot intolérance parce qu'en fait, ils ont peur de dire « je ne le digère pas » ou « ça me fait mal au ventre ». Tout ce qui est dit et demandé gentiment est compris et reproduit.
Oui, oui.
Donc, ça me permet de dire aussi que j'ai quitté le fait de travailler dans un restaurant parce que j'ai découvert avec le temps que la gentillesse, c'était la chose que je préférais et que c'était un milieu qui était trop dur pour moi. Et j'ai dû me l'avouer, mon égo en a pris un coup. Je voulais être une petite guerrière. Quand on me propose des choses, je dis « d'abord, je vais réfléchir et je vais voir ce que ça peut apporter à mon petit cœur ». À mes besoins et puis à mon portefeuille, ce qui est devenu important aussi. J'ai beaucoup travaillé gratuitement, parce que je ne fais plus qu'avec le cœur. Il faut vraiment que ce soit un engagement qui m'apporte quelque chose dans mon cœur et dans mon âme et dans ma joie. Quoi.
Tu prends soin de ce qui te nourrit le cœur et dans la vie. Qu'est-ce qui te nourrit? À quoi es-tu sensible?
À la gentillesse, à l'écoute des autres et de soi. C'est-à-dire que je suis devenue complètement réfractaire au fait que quand on se donne rendez-vous, l'ami ou l'amie est fâchée parce qu'à la dernière minute, on dit « écoute, je suis désolée, mais en fait, je le sens vraiment pas ». Jusqu'à la dernière minute, j'ai cru que je pouvais venir, mais j'y arrive pas. Mes amis sont des gens qui disent « bah ouais, évidemment, pas de problème ». Donc, c'est un critère qui est devenu assez important. Et sinon, je suis très sensible à des petits détails qui sont importants, mais au beau, par exemple. En fait, je vis dans un appartement où tu poses ton œil, on sent mon intention. J'aime chiner, ça se sait. Ouais. J'adore chiner les beaux objets. C'est ma manière de consommer parce que je n'aime pas consommer du neuf à tout niveau. Je réduis de plus en plus, ça me rend de plus en plus heureuse. Mais je suis très sensible au très très beau, au très doux, au très gentil. À la Sicile, évidemment, au soleil, à la mer. J'ai du mal à vivre ici, je l'avoue, et tout le monde le sait. Un jour, je préparerai ma fuite. Mais je suis sensible au langage culinaire méditerranéen et profondément sicilien, ça c'est sûr. Au langage italien, que je commence enfin à maîtriser. Ah. Et le langage est très important pour moi. J'aime les mots. Encore hier, j'essaye maintenant je note des mots dans le dictionnaire italo-français. Que je connais et ceux que je connais pas, j'essaie d'en apprendre 5 par jour. C'est un truc rigolo, mais c'est assez intéressant. Je trouve que les mots italiens sont très très bons. Donc ça, c'est il y en a plein évidemment. Je suis sensible à énormément de choses et à ça. Et je suis sensible à une chose qu'on me prépare à manger. Ça.
C'est un vrai cadeau.
Ouais, surtout que si on me prépare à manger et que on me connaît bien, même si ça fait pas longtemps qu'on me connaît, on va faire un truc léger, végé ou à base de fruits de mer. Ou un truc genre la recette de ton cœur, tu me bouleverses en 2 secondes. C'est une forme de grande déclaration d'amour pour moi.
Aujourd'hui, tu es venue avec un petit cadeau pour moi.
Oui, ça, je suis très sensible à ça aussi. J'aime bien faire les cadeaux et j'aime bien recevoir, mais des petits. Hein.
C'est un petit banana bread joliment emballé.
Dans un petit mouchoir que je chine. Oui. Je suis une folle de mouchoirs chinés.
Et vraiment un tout grand merci pour ce geste parce que je sais la valeur qu'il a. Et
je l'ai fait ce matin et c'est étonnant, je m'en suis rendu compte après, c'est que je tenais à venir les mains pleines, j'adore ça. Et je me suis rendu compte en l'emballant dans ce petit mouchoir que en fait c'est la première recette que j'ai écrite pour mon blog qui date d'il y a plus de 10 ans. Donc mon blog La Table d'Aline existe encore mais je ne le nourris plus. Mais s'il vous plaît allez voir la première recette parce que mon idée était, je ne sais pas d'où sort cette idée, je n'arrivais même pas à croire que c'est moi qui l'ai eue. C'est que je voulais à l'époque mêler les recettes avec de la musique ou des personnalités que j'adorais. Et donc, j'ai fait le lien entre banana bread et la banane des cheveux. Et donc, parle d'Elvis. C'est un truc délirant. Pendant 5-6 ans, j'ai essayé de continuer à faire ça. Il y a une recette avec plein de personnalités, des films, beaucoup. J'ai toujours mêlé cuisine, film, livre, puisque je suis une grande lectrice, une fan de cinéma. Et dans mon blog, je vous encourage vraiment à aller fouiller.
Et dans ton livre, justement, tu dis que tu as vécu 2 bouleversements dans ta vie.
Ouais.
Dans la cuisine de ta tati et en Sicile. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé en toi et ce que tu as ressenti dans ces moments de joie, d'euphorie ou au contraire symbolique ou...
J'ai ressenti exactement la même chose au même moment, enfin aux mêmes endroits, à des époques totalement différentes. Petite parenthèse, ma tati habitait dans une annexe d'une... son mari, mon tonton Michel, a été directeur de la prison de Namur pendant plus de 20 ans. Et donc, ils avaient, si tu veux, une maison de travail, quoi. La maison était vraiment annexée à la prison. Mm-hmm. Donc, de ma chambre, je voyais la cour des prisonniers. C'était un univers complètement incroyable pour moi. J'adorais. C'était très, très rigolo. Et même le jardin était donc ce jardin de curé avec des hauts murs. Il y avait des barbelés et tout. Alors, elle adorait les fleurs et elle avait fait un jardin donc, à l'anglaise où tu fais pousser plein de trucs, mais tout est... C'était un joyeux bazar, quoi. Et donc, j'avais une petite table au fond l'été pour dessiner. Et la cuisine donnait sur ce jardin. Et c'était une cuisine magnifique. Tu avais l'impression de faire partie du jardin. Et voilà, les émotions que j'ai reçues, c'était ça. C'était, je pétrissais du pain, Tati ne me parlait pas. Il y avait peut-être un fond de musique, même pas, je crois pas. Mais il y avait le jardin, la vue incroyable, il y avait Poussy, le chat. Tout n'était que calme, volupté. Et j'ai vraiment ressenti que j'étais à ma place. Je me suis même, je l'avoue, à l'époque, dit, mais pourquoi ? En fait, c'est ma maison ici, c'est très étrange. Mmh. Alors que j'adore mes parents, mais je ne me suis pas vraiment sentie chez moi, dans ma famille. On était trop. C'est bizarre, hein ? On était cinq et c'était trop pour moi. Et donc, c'était une belle évasion d'aller chez elle. Donc ça, c'est un premier choc très fort. Mmh. Et des années après, j'ai une trentaine d'années, mon ami Marcello, avec son amoureuse de l'époque, m'invite à venir en Sicile, que je ne connais pas du tout. Je connais l'Italie parce que j'étais en vacances quand j'étais petite avec mes parents, mais très peu. Et lui, il vient de Parme, mais il a une tante qui habite à Pantelleria, qui est la dernière île avant la Tunisie. Donc c'est une île qui est très connue par les Italiens, les Siciliens, qui commence à devenir très touristique. Je continue à y aller, mais elle me plaît un petit peu moins qu'avant. C'est un peu amouraine maintenant, parce que ça fait plus de 10 ans que j'y vais. Mais là, j'ai vraiment eu un choc. C'est-à-dire que j'étais à un moment de ma vie où j'étais assez bouleversée. Je sortais d'une rupture assez forte. On arrive de nuit. Je me lève très, très tôt le matin parce que je dormais mal. Je n'avais pas vu l'île puisque nous sommes arrivés de nuit en bateau. Et je me lève. Je vais chercher un petit pain, je me souviens, avec des grains d'anis. Parce que en Sicile, on utilise beaucoup l'anis. Je me mets sur un petit banc devant la mer. Je goûte ce pain. Et là, j'ai fait « Waouh !» C'est peut-être ici ma maison. Mais comment ça se fait ? Je suis bégo-belge, hein, je le rappelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si c'est moi la Sicilienne ou l'Italienne du coin, mais pas du tout. Et donc voilà, deuxième choc. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai plus été ailleurs en voyage. C'est ça qui est dingue. C'est comme ce que je disais par rapport aux amis et aux amours. J'aime rester à un endroit, creuser, connaître. Pour moi, voyager dans plein de pays, ça, c'est un désir que j'ai. Mais non seulement, j'en ai pas les désirs financiers. Et en plus, j'ai l'impression que ça va brouiller mes désirs de comprendre ce qui se passe dans un pays clairement, vraiment très très clairement. Après Pantelleria, j'ai été dans d'autres endroits et notamment ces deux dernières années à Palerme que j'ai voulu creuser aussi et que je veux continuer à creuser. Et puis deux, trois autres endroits en Sicile. Mais il y a quelque chose de très très particulier dans ce pays qui me parle vraiment. Et pour moi, une île, c'est un endroit où on est protégé, on est oublié. Oui, oui. Donc ça parle aussi d'une bulle, tu vois, pour avoir accès à une île, il faut le vouloir.
Oui, oui.
Il faut vraiment avoir accès. C'est comme, j'aimerais bien, comme toi à mon avis, comme beaucoup de gens, qu'on ait accès à moi, pas très facilement, que ce soit un vrai désir. Et donc, j'ai l'impression d'être une île et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime cette île-là. Quand tu y es d'ailleurs, tu n'y vas pas pour une semaine. Hein. Tu y restes un peu, parce que ça met du temps de t'habituer. Oui, je ne sais pas, on n'a pas les mêmes pieds sur terre sur une île qu'ici.
Tu aimes creuser, fouiller, farfouiller, un petit peu comme lorsque tu chines. C'est peut-être un peu la même sensation.
D'ailleurs, je chine beaucoup en Sicile. Les objets sont incroyables. Oui. La céramique, il y a un goût, même dans le design italien, qui me plaît énormément, que je ne trouve pas ici.
Que tu nous ramènes.
Et que je ramène, évidemment. C'était un peu le but à un moment donné dans ma vie, que j'aimerais bien reprendre, effectivement. Je pense que j'aime l'histoire italienne aussi. L'histoire sicilienne, il n'y a rien à faire. Mon grand plaisir, quand je suis à Palerme, par exemple, c'est de me balader sans but, de ne pas manger chez moi, donc de manger dans la rue, sans heure, et de rentrer dans mon palazzo. Tous les palais sont incroyables, en fait. Et ça, la plupart du temps, ça coûte rien ou ça coûte 2 euros. Et tu te retrouves dans des lieux qui sont préservés, chargés d'une histoire incroyable que je ne connais pas. Hein. Je ne cherche pas forcément à savoir. Oui. Je me laisse bercer par le romantisme et la charge d'histoire que tout ça... Moi, je suis fascinée, par exemple, c'est un des trucs que je préfère au monde, c'est le bruit de mes sandalettes sur les grands escaliers... palermitain en pierre bleue. Oh, ça me rend la nourriture y est démente, infinie. C'est vraiment une cuisine qui va de la cuisine très très riche à une cuisine plus pauvre et qui me plaît beaucoup. La street food est très importante et je continue à la fouiller énormément.
Parce que j'imagine que là aussi, comme chez ta tati finalement, il n'y a pas d'écrit, mais que ce sont les goûts et les sensations qui se lèguent.
Qui se transmettent, oui. Et puis qui se transforment aussi au fur et à mesure du temps. Ouais. Et c'est ce que j'aime aussi.
Tu nourris les gens, mais et toi ? Quel est ton rapport à la nourriture et quelle mangeuse es-tu ?
Ah, c'est intéressant. Je suis une mangeuse qui a seulement compris maintenant qui elle est. J'étais une enfant qui a été, j'allais dire punie, mais c'est pas vraiment ça, restreinte, mise au régime très tôt par ma mère, pour des raisons incompréhensibles, puisque j'avais probablement 5 kilos de plus que la moyenne, mais j'étais d'une beauté, je m'aimais beaucoup. À l'époque, je me sentais très joyeuse, très heureuse. Ça a cassé quelque chose en moi de très difficile, puisque être mis au régime depuis son enfance sans raison, je pense que je parle à quasiment toutes les femmes du monde, là, en disant ça. Avoir ce rapport au corps qui dit que tu n'es qu'un corps, parce que finalement, tu n'ouvres plus la bouche. Eh bien, tu mets des années en tant que femme à comprendre et à essayer de te sauver de ça. Et ce qui est très difficile, je trouve. Donc, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais je commence à en parler beaucoup plus autour de moi. J'ai eu des troubles alimentaires pendant des dizaines d'années dans ma vie, que j'ai caché toute ma vie. Mm-hmm. C'est un poids hyper dur à porter seule. Je l'ai dit à une seule personne il y a une dizaine d'années. Et... j'ai commencé à ouvrir une espèce de boîte de Pandore et je me suis rendu compte que maintenant, quand je le dis si naturellement, parce que j'en suis... je ne vais jamais dire le mot guérie. Je vis avec, c'est-à-dire que les crises de troubles ne sont plus là, mais c'est un trouble que je reconnais et que qui est en moi, en fait, avec lequel je vivrai toujours. Une attention, comme ça. Pas un contrôle, une attention. Voir ce que ça veut dire quand j'ai envie de trop manger, qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, il y a une émotion qui se glisse, il va falloir la creuser, ou accepter que je vais trop manger 2 soirs de suite, mais il faut que je me pardonne, quoi. Et donc, je suis devenue une mangeuse qui a compris très vite qu'il fallait que toutes les injonctions qu'on nous donnait ne sont pas des injonctions, en fait. Il faut comprendre comment nous, on aime manger. Là, on est au début d'après-midi. Je viens de manger à 1h le gros repas de ma journée. Ça, c'est mon kiff. C'est-à-dire que je me lève à 7h du matin ou à 9h du matin ou à 10h. J'aime manger vers midi 13h. J'aime le jeûne très très long du matin qui me permet de comprendre ma nuit, de comprendre mon énergie. Par contre, mon repas, celui-là, est dingue. Toujours hyper bien choisi, toujours très précis. Il réunit quasiment tout ce que je veux manger dans la journée. Mais je mange très lentement, du coup. C'est un vrai cadeau. Et après, je me vois un peu comme un moteur. Je peux rouler très très bien avant de rentrer chez moi, même tard le soir, parce que j'aurais emmagasiné des choses. Il y a des gens qui ont besoin de 4-5 petits repas dans la journée pour fonctionner. Donc moi, j'ai besoin de ça. Et l'autre moment où j'ai faim dans la journée, c'est à 17h. Après, c'est très compliqué pour moi. Et socialement, ça a été difficile à expliquer, que ce soit en couple, que ce soit avec des amis, que ce soit au restaurant. Donc je joue avec ça aussi.
Oui, oui.
J'essaie d'aller dans les endroits où je vais pouvoir manger léger. Mais ce n'est pas pour des raisons esthétiques. C'est pour des raisons de confort et de respect de moi-même, en fait. Et donc, je suis une mangeuse qui préfère cuisiner que manger. Ça résume mon métier.
Et en même temps, quand on cuisine...
On mange.
On mange. Ouais. C'est apprendre à se connaître et à se respecter. Respecter son rythme de savoir qu'on a besoin de peut-être 2 repas par jour ou plus.
Tout à fait. Et en fait, c'est bizarre, c'est comme plein de choses qu'on arrive à dire maintenant, nous les femmes surtout. Ce sont des choses que j'ai appris à dire... à chaque fois que j'étais en couple, j'ai pas osé dire. Mais en fait, j'ai pas vraiment envie de manger là maintenant. J'ai envie d'être avec toi, face à toi. Est-ce que je peux te regarder manger et boire un petit verre de vin et on papote ? J'ai mis du temps à dire ça. Écrire ou comprendre, essayer de décortiquer, en parler autour de soi quand on a une belle écoute, une belle oreille qui est à côté de nous, c'est hyper important. Il y aura toujours à un moment donné quelqu'un d'intelligent qui va dire « Mais en fait, tu sais, c'est OK. Tu vas pas forcer quelqu'un à rester avec toi ou un ami à venir chez toi le jour où il est malade. » Voilà.
Non,
tu peux pas forcer quelqu'un à dire « mange ». Ben non, en fait, non.
Finalement, c'est très ancré dans notre histoire, dans notre héritage, notre éducation même, que socialement, manger, ça a toujours rassemblé. Beaucoup de choses se passent autour de la nourriture, autour de la table, et s'extraire de ça ou changer de mode d'alimentation, se questionner, c'est vraiment un choix que l'on fait consciemment.
Oui, et ce qui est bouleversant, c'est que nous, la plupart des femmes, on nous a dit toute notre vie, tu es trop grosse ou tu es trop maigre, et c'est toujours lié à l'assiette, c'est-à-dire que, en gros, tu es trop grosse, restreins-toi, tu es trop maigre, c'est inquiétant, qu'est-ce que tu fais ? Tu caches quelque chose. Entre les deux, on le sait tous, on mange nos émotions, donc hyper intéressant, mais c'est dingue de savoir que maintenant que je suis plus en paix avec des choses, bon, il y a des noirceurs qui sont ailleurs, mais en paix avec plus de choses que je n'ai pas compris pendant des dizaines d'années, bien, mon poids s'est stabilisé, c'est mon poids à moi, c'est mon corps à moi, c'est ça que je veux dire. Je ne me pèse plus, je sais que c'est mon corps. En fait. J'en ai plus peur. Mm-hmm. Il y a des variantes qui sont les variantes de tout le monde, les variations de quelques kilos, ce n'est pas ton corps. C'est ce qui s'est passé journée, c'est ce qui s'est passé dans ta semaine, c'est la manière dont tu as bougé, c'est la manière dont tu as dormi, c'est comment tu as été aimé, comment tu as aimé dans la semaine. Tout ça, ce sont des choses hyper importantes. Et en fait, mon corps m'en est tellement reconnaissant qu'en fait, je suis plus en forme maintenant. J'ai des mots qui sont différents, mais au niveau de ma forme physique qui est je sais marcher, courir, c'est déjà pas mal. En tout cas, je sens que mon rapport à la cuisine a vraiment changé, vraiment très très fort. Avant, je voulais cuisiner, maintenant, je veux faire à manger. C'est bizarre, hein, c'est très étrange. J'ai senti cet été, je suis partie pour un très très long voyage qui s'est terminé seul, en Sicile évidemment, où j'avais besoin de comprendre des choses de ce qui se passait dans ma vie, que ce soit amoureusement, amicalement, et avec moi-même en fait. Mm-hmm. Et dans quel territoire je voulais être, comment j'allais travailler aussi, j'en avais marre de plein de trucs. Et j'ai mon ami Pat qui m'a appelé, il travaillait déjà depuis un an pour la FDSS, Fédération des Services Sociaux. Pat était chargé de faire à manger dans des quartiers isolés, notamment de Bruxelles, où il y a des associations qui ont à cœur de réunir des gens qui vivent là, qui ne se rencontrent jamais, et donc faire à manger pour les réunir et qu'ils puissent parler entre eux et aussi avec des assistants sociaux qui peuvent les aider sur des trucs très pratiques ou psychologiques. Et donc, Pat a travaillé tout seul pendant un moment donné, cuisine mobile dans la rue, entre 70 et 100 repas par jour qui sont donnés, donc qui sont gratuits. Avec des super recettes, mais avec tous les enjeux que ça veut dire de cuisiner dans la rue. Je voulais absolument essayer de travailler avec lui. Nous sommes payés, évidemment, mais ce n'est pas non plus des salaires mirobolants, mais on est payé à une juste valeur par rapport au travail physique, mais par rapport à ce que moi, ça m'amène psychologiquement, c'est incroyable. Donc ça s'appelle Brico, B-R-I-C-O. C'est un projet magnifique et c'est un des projets qui me tient le plus à cœur parce que j'ai découvert que j'avais encore plein d'a priori sur une certaine forme de violence que je ressens de plus en plus dans la ville, c'est-à-dire il y a de plus en plus de gens qui sont seuls dans la rue, qui déploient une violence qui est liée à forcément un manque d'amour, de nourriture, de rage, de vie, que j'ai toujours comprise, mais dont je me suis toujours un peu écartée. Et là, tu peux donner, on distribue à tout va. Tu pourrais passer juste me voir et dire bonjour, tu pourrais manger avec un gars qui est complètement en manque, qui prend de la drogue toute la nuit, mais qui est adorable, avec une nana qui est une mère isolée, avec quelqu'un qui est sans abri depuis 10 ans et qui kiffe être sans abri parce qu'il est, c'est sa seule manière de gagner sa liberté. Il n'y a, c'est bizarre, aucune violence parce qu'il y a de la nourriture gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire des mondes, quoi. Ouais. C'est incroyable.
Et toi, tu as plongé directement dedans.
Ouais. Le premier jour, je me souviens, j'ai pris une claque incroyable. Je suis rentrée, je crois que j'ai pleuré. Donc voilà, c'était un des trucs que j'ai préféré commencer cette année et qui va continuer. Et donc voilà, c'est encore une petite branche que j'ai remise à mon arbre que je suis en train de construire, qui est en train de pousser, mais que j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que si je gagnais mieux ma vie, je pourrais le faire bénévolement, évidemment. Mais c'est important pour moi de bien gagner ma vie aussi parce que c'est respecter mes désirs de vie, en fait. Et comme j'aime voyager, je sais pourquoi je veux gagner ma vie.
Et justement, j'ai l'impression qu'à tout moment, tu peux nous annoncer que tu pars t'installer en Sicile. Est-ce que tu l'envisages, parfois, souvent ?
Je l'ai beaucoup envisagé. La réalité est revenue assez vite, c'est-à-dire que je travaille quand même très bien ici. Mais, par contre, je pense qu'il y aura une deuxième, troisième, quatrième vie, en tout cas là-bas. C'est clair que je me vois mal après 55 ans ici. J'ai envie de pouvoir encore être énergique. Donc, dans une dizaine d'années, j'aimerais bien construire quelque chose en Sicile. J'essaie de plus en plus de pouvoir gagner ma vie en écrivant. Comme ça, je peux le faire de loin. Je pourrais imaginer effectivement aussi travailler en restaurant, mais on parlait de Chine et j'adore... Je suis en train d'essayer d'imaginer en tout cas une manière de pouvoir vivre là-bas à un moment donné. Oui, c'est super important. Ou même un temps, en tout cas. Mm-hmm. Une partie de l'année, quelque chose comme ça. C'est très important parce que je sens que, comme beaucoup, évidemment, l'hiver me rend plus ou moins malheureux, sauf quand il neige. Mais c'est aussi parce que il y a quelque chose en moi qui me dit que parfois, et je pense qu'il y a plein de gens qui le ressentent, on n'est pas né là où on devrait vivre. Oui. Et on ne nous a pas appris à choisir nos territoires. Et moi, j'ai senti en moi que je devais choisir mon territoire, que c'est un cadeau que j'ai envie de m'offrir à un moment donné. Là, j'ai de la chance parce que on n'en a pas encore parlé, mais j'ai écrit mon premier livre il y a quelques années. Il a eu un chouette succès, je l'avais auto-édité. Et donc, grâce à ça, je suis en train d'écrire mon second qui va être réédité chez Hachette, qui sortira l'année prochaine. Ça, dans la vie, si ça marche, et que je peux continuer à écrire pour une maison d'édition qui me soutient, ça m'intéresse vraiment parce que ça me permettrait effectivement de voyager, de bouger et de pouvoir faire des choses que je préfère, c'est-à-dire écrire, que ce soit des recettes ou sur ce que je sais de la cuisine et de la vie qu'il y a autour de la cuisine. C'est un tout en fait. Quand je disais tout à l'heure je prépare ma fuite, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça parle de pas se fixer et de remettre les choses en question tout le temps. J'aime bien ça. C'est important pour moi de pouvoir rester un électron libre. Je ne pourrais pas faire ma valise du jour au lendemain, mais j'aime bien la sensation que je suis au bord de ça.
Que c'est possible.
Ouais, je trouve ça intéressant. Parce que du coup, comme c'est possible, peut-être que tu ne le feras pas. Mais si c'est impossible, oui. T'en as envie tout le temps.
Quand tu laisses la porte ouverte, en fait.
Exactement. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste en moi, dans ma tête. Et puis après, je crois très très fort au joyeux hasard aussi. Mm-hmm. Que des choses qui tombent à des moments où tu t'y attends le moins.
Lors d'une de tes précédentes émissions, Cédric Wauthier te demandait... Est-ce que peut-être tu nous emmèneras un jour en Sicile ou en Italie?
Ah oui, mais il a blagué avec ça, mais il a tellement raison. Oui. Je sais que toutes les deux, on a plein d'idées à la seconde. J'ai envie d'accomplir plein de choses, mais on a ses limites aussi. Mm-hmm. Et surtout des limites qui sont très, très, très difficiles pour moi. J'ai l'impression d'être dans un pays, bon, il y en a beaucoup évidemment, mais où on supporte très peu les idées chouettes. Enfin, c'est difficile. Moi, par exemple, mon métier, c'est cuisinière. Je sais écrire, je sais dessiner, je sais faire plein d'autres choses, mais je ne sais pas faire du business plan et je ne sais pas comment on cherche de l'argent pour créer des projets. Mmh. Et effectivement, moi, l'idée de pouvoir voyager, montrer à voir ce que je vois quand je suis en Sicile, si un jour il y a un but très clair là-dedans, j'ai toujours aimé à la fois la radio, la télé, je sais que je suis douée pour ça, c'est comme si on papotait dans mon salon ou dans le tien, c'est quelque chose qui est très naturel pour moi, je suis beaucoup plus douée là-dedans que dans plein d'autres domaines. C'est un appel, hein, mais c'est un faux appel parce que j'en ai déjà parlé plein de fois autour de moi et ça semble assez difficile. Mais c'est aussi pour ça que je suis contente d'être éditée chez Hachette. C'est parce que si le livre fonctionne en France, j'aurai aussi un autre aura. Et en France, même si nous sommes beaucoup, beaucoup de femmes chefs avec un univers assez large comme le mien, je sais qu'il y a de la place pour tout le monde. Mm-hmm. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui est bien défendu, bien communiqué, donc je compte aussi là-dessus. J'ai des ambitions qui sont juste liées à... un renouvellement d'un désir qui pourrait m'amener à un lieu où je serais peut-être mieux. Voilà, mm-hmm. C'est juste ça, en fait. Ça demande beaucoup de travail, mais bizarrement, c'est une énergie dans laquelle je me sens mieux que quand je me sens obligée de faire quelque chose qui est très bien payé, mais que j'y arrive pas. C'est un gros résumé, mais
oui.
Tu dis oui de temps en temps, hein, pour pouvoir donner accès à un projet qui t'éclate et où t'es moins bien payé. C'est une balance, mais voilà.
Et est-ce que tu penses que tu finiras sur cette île?
Non.
Non.
Et je pense qu'il faut vivre sur une île. Oui. On est trop isolé. Moi qui ai vécu dans un très, 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 très petit village, j'ai vite senti que tout se savait et que les gens ne sont pas toujours très bienveillants. Oui. Et une île, c'est un petit peu ça. Mais non, pas sur une île. Ce sera dans une ville. Alors, je continue à aimer beaucoup les villes. C'est pour ça que j'aime Palerme. Elle est entre deux, c'est-à-dire qu'il y a la mer qui est là. Mais c'est une ville qui artistiquement bouge beaucoup. Qui a gardé ce côté historique dont je te parlais tout à l'heure, qui me fascine totalement. Dès que tu prends un bus, t'es dans un autre paradis, dans plein d'autres paradis. Voilà, j'y connais déjà beaucoup de choses et de gens, donc je vais pas recommencer. Ça m'épuise un petit peu aussi. J'aime retrouver des choses, retrouver des lieux, retrouver des gens, tisser des liens que je dois creuser, hein, parce que ma timidité avec l'italien était très difficile. Je commence seulement à oser faire des erreurs et à trouver ça touchant, parce que moi, quand j'entends les gens qui parlent un petit peu français et dont c'est pas la langue maternelle, je trouve c'est ça touchant. Extrêmement beau, touchant et compréhensible. Ça, c'est vraiment un truc qui est lié à moi, je pense. Mais donc l'île a je vais essayer de vous l'expliquer. Elle a une pointe dans l'eau qui est très fine au bout. Et en fait, moi, quand j'y arrive, je suis très sensible. J'ai le mal de mer pendant 3 jours.
Waouh.
Donc, j'ai vraiment du mal à m'adapter. Je suis un petit peu malade, je suis un peu nauséeuse. Et puis, je m'installe, je suis bien. Souvent, je reste un mois. Et quand il est temps de partir, j'ai le même état quand je reviens. Donc, ce n'est pas très agréable. Et je sens qu'il y a quelque chose qui me dit que je suis dans un amour-haine avec cette île. Mm-hmm. Je suis fascinée parce qu'elle est fascinante.
Et ton corps, oui.
Ouais, puis je commence à en faire un peu le tour, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que si j'y avais acheté une maison, si je m'étais installée en tant que vraiment habitante, ça aurait été très, très différent. Et surtout, j'ai jamais été en hiver, par exemple. Et apparemment, c'est une île qui est très difficile en hiver. Tu te sens très isolée.
Oui, les habitants, toutes les îles.
Voilà. Oui. Les habitants sont très heureux parce que les touristes sont partis. Mais les restaurants sont fermés, les cafés sont... Il y a très, très peu qui sont ouverts. T'as pas énormément de connexion Wi-Fi. T'es un peu isolée. Ça représente probablement un rêve, mais pas pour tout le monde.
Oui, non, non.
Et c'est pas forcément le mien. Je pourrais faire une retraite pendant 2 semaines, mais je pense que j'aurais un peu la trouille quand même. Sauf s'il y a un feu ouvert. Et encore. Donc voilà. Oui. Non, c'est, je vise plutôt, plutôt une ville. Mm-hmm. J'aime les villes italiennes et siciliennes. Vraiment, sincèrement. Ce sera plutôt ça. Parce que j'aime, et ça permet de parler de quelque chose dont on voulait parler tout à l'heure, c'est j'aime aussi beaucoup l'accès à la culture. J'adore aller voir des films. J'aime bien avoir accès aux expositions. C'est hyper important pour moi. Là, dernièrement, j'étais à Florence. Et donc, cette année, j'étais à Florence, Turin et Rome parce que je fais des échanges d'appartements. Donc, c'est génial. Ça permet de voyager sans payer de loyer.
Oui.
Donc, ça m'a donné des opportunités incroyables de découvrir des villes, puisqu'en fait, on te propose une ville, tu fais « Ah oui, je veux bien, ça m'intéresse ».
Génial.
Donc, je suis retournée à Florence alors que je n'avais plus été depuis que j'étais petite. Et chaque fois que j'arrive dans une ville, je regarde les expositions qu'il y a et qui ne sont pas les expositions classiques. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas forcément d'aller dans le palais machin pour voir les vieilles...
Oui.
Contrairement à Palerme, mais bon, ça c'est autre chose. Mais il y a toujours dans une ville, dans une grande ville italienne, quelle qu'elle soit, une chouette expo photo, une chouette expo sur des artistes. J'ai vu des expositions cette année qui étaient incroyables sur des photographes femmes que j'idolâtre depuis des années et que je n'avais jamais vues. Et c'était incroyable parce qu'évidemment, c'était dans des bâtiments incroyables.
Ah ben oui.
Donc ça, ce sont des choses qui sont super importantes pour moi. Et je ressens ça à chaque fois quand je suis à Pantelleria. Au début, je ne le ressentais pas. Mais là, après 2 semaines, à chaque fois, je me dis « Wow, j'irais bien voir un film. » Bon, il y a un petit cinéma, mais c'est vraiment que des blockbusters. Il y en a un film par semaine et c'est relativement pas celui que je veux voir. Il n'y a pas d'exposition. Je sais qu'il y a sur l'île un milieu artistique, mais qui est très riche, qui est très fermé, auquel je n'ai pas accès,
très limité,
auquel
je n'ai
pas forcément envie de... Je n'ai pas les codes. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas de lieu culturel me manque énormément. Et c'est pour ça que peut-être que j'en aurais moins envie quand je serai plus âgée. Et encore, je réfléchis en te le disant, je crois que c'est ça qui nous fait rester jeunes. Donc, je ne crois pas. Je pense que je dois regarder, observer, être curieuse jusqu'à la fin de ma vie.
Jusque là où il y a du mouvement.
En fait. Ouais, voilà. Je me suis donné comme petite mission ces derniers temps, je me donne des espèces de petites missions pour être moins angoissée, parce que je suis dans une période très angoissée de ma vie. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je travaillais beaucoup sur ordinateur, comme un peu nous tous. Et c'est difficile, mais je suis obligée la plupart du temps. Et donc, dernièrement, j'essaye d'acheter... j'ai énormément de livres, évidemment, que je n'ai pas encore lus. Et j'aime bien acheter des livres qui sont assez petits, qui font 100 pages. Et hier, j'ai lu un livre en entier en 2 secondes, qui est donc le dernier livre que je vous conseille vraiment de Julia Kernon. Ça s'appelle Yoko Ono. J'avais lu un de ses premiers romans qui s'appelle Sauvage cet été, et donc j'adore cette autrice. Et donc lire un petit livre par jour quand tu en as l'occasion, ou tous les 2 jours, ça désangoisse un petit peu. Et le cinéma, j'aimerais aussi y retourner. Plus, je suis quand même une fille qui va au cinéma 2 fois par mois, mais j'aimerais bien y aller plus que consommer, évidemment, des plateformes chez soi. Ce qui est simple, hein, parce que j'adore... Je fais partie des gens qui aiment bien se retrouver seul chez soi, bien au chaud, quand t'as vécu une journée très compliquée, faite de foule et de sociabilité forte. Hein. Mais voilà, le cinéma reste quelque chose que j'adore.
En parlant cinéma, justement, est-ce qu'il y a un film que tu as vu 10 fois? Voire plus.
Il y en a plein.
Ah oui ?
Je suis un peu étrange pour ça. C'est comme la musique. J'écoute la musique jusqu'à en avoir... Alors, il y en a un qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui en est un. Et ceci est une dédicace à mon amie Isaline, qui m'a fait un jour le cadeau de m'embarquer pour mon anniversaire à la Cinémathèque pour voir ce film. Et je ne l'ai pas su jusqu'à ce que le film commence.
Génial.
J'ai vraiment été très émue. Et c'est Stealing Beauty de Bertolucci avec Liv Tyler, qui parle de ce que je ressentais. Je l'ai vu, c'est un film qui date de mon adolescence. Et je me suis totalement identifiée à elle. Ça parle d'une jeune femme qui est américaine et qui arrive pour tout l'été en Toscane chez des amis de ses parents et qui va rencontrer et comprendre ce que c'est le premier amour. Elle va rencontrer son premier amour en croyant que c'était un autre, mm-hmm. qui va essayer de chercher son vrai père, puisqu'elle sait que son père n'est pas son vrai père biologique. Oui. Je passe encore parfois, bon alors j'allais dire une fois par semaine, mais j'exagère, mais une fois par mois à mettre ce film sur mon grand écran tout en dessinant, puisque mm-hmm. du coup je le connais par cœur. Il est en italo-anglais, donc pour moi c'est génial. Et pareil, parfois je le mets en italo-français. C'est une Madeleine de Proust aussi quand je ne vais vraiment pas bien. C'est un doudou, quoi, parce oui. que je peux pleurer devant... en pensant à celle que j'aurais voulu être, que j'ai été, c'est me rapprocher de moi.
Oui.
À côté de ça, tous les films italiens sont vraiment des choses très importantes pour moi, pas forcément des vieux films, au contraire, mm-hmm. des films semi-contemporains, des 80-90, Nanni Moretti, ses premiers, April, Diary. Mm-hmm. Plein de films italiens de cette époque-là, parce que je les ai bouffés toute mon adolescence, donc c'est des choses qui sont restées collées... à moi, ouais, je regarde beaucoup. Et je relis aussi beaucoup de livres que j'adore, qui me rassurent, en fait. C'est mon quotidien. Je pense que, dernièrement, je me suis posé cette question. Comme je ne suis pas croyante, on va dire ça simplement, comme énormément de gens autour de nous, j'ai besoin, mes croyances sont dans des... La croyance, pour moi, c'est pour qu'on se rassure, je pense. Mm-hmm. Pouvoir se raccrocher à quelque chose. À un moment donné, j'ai senti que j'étais un peu dans un vide. Donc, j'ai décidé de me raccrocher aux choses auxquelles je crois. Et l'art est quelque chose d'ultra important. Évidemment, c'est super important d'avoir les moyens de manger et de et se nourrir et d'avoir un toit et de se vêtir, mais ça nourrit quelque chose quand tu as tout le reste qui est vital. Mm-hmm. Ça nourrit quelque chose qui peut te rendre meilleur. Donc, c'est un peu ma croyance.
Pour rêver un peu, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaites rencontrer dans cette vie ?
Elle peut être morte ?
Oui.
Alors, la première personne aujourd'hui à laquelle je pense, c'est David Bowie. Mais il y en a évidemment énormément. Et demain, je vais te dire, ah non, Fred, j'aurais dû dire ça. Mais oui, pour plein de raisons. Alors, des raisons magnifiques, mais vraiment. Bon, déjà, parce que j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps sur le fait qu'il avait fait un concert que je ne savais pas ça de lui. J'avais adoré au moment où Berlin était fendu en deux par le mur de Berlin. Il avait mis des haut-parleurs pour que les deux côtés puissent entendre, le côté qui était plus pauvre puisse entendre sa musique. C'était génial, un concert qui a duré 3 jours. Enfin, des choses très belles de lui. C'était une femme comme les autres avant qu'il y ait ce problème de genre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a joué avec son genre toute sa vie, qui s'est jamais défini en tant réellement qu'homme ou femme, mm-hmm. qui a joué avec le vêtement, mon Dieu, ça c'est mon rêve, qui a joué avec son physique, avec ses yeux verrons, donc les deux couleurs des yeux. La musique, on n'en parle même pas. Mm-hmm. J'ai commencé un cours de danse contemporaine cette année, et chaque fois que je sors de ce cours, j'ai envie de danser sur toutes ses chansons. C'est une musique qui est pleine de poésie et d'énergie, qui est engagé, et il était vachement beau. Je parle pas de beauté physique, non. Et encore si habillé, oui. C'est quelqu'un dont la mise en scène de lui parle de moi plus que jamais. D'ailleurs, mon t-shirt préféré est usé jusqu'à l'os, il est noir, et c'est la tête de Ziggy, Ziggy Stardust. C'est vraiment un personnage que je trouve intéressant, surtout dans notre époque, en fait. Il parle de tous les sujets qui me traverse en ce mm-hmm. moment, donc tout ce que je viens de dire.
Tous,
ouais,
en fait,
exactement. Ouais. Ce qui me fait dire que tout ce qu'on dit en ce moment, oui, mais les époques sont plus les mêmes quand on parle d'agressions sexuelles mm-hmm. et autres agressions faites aux femmes. Je déteste cette phrase parce qu'un homme bon l'était il y a 500 ans et le sera encore aujourd'hui. Quand t'es bon, basta.
Oui. Oui.
Il faut arrêter avec les conneries, les injonctions culturelles de... C'est un sujet un peu plus chaud, mais c'est vraiment important pour moi de le dire. Et c'est pour ça, les hommes que j'aime bien, ce sont des hommes dont je sens la bonté depuis le début et qu'elle est innée.
Et quelle chanson de lui ?
Oh là là, du c'est Modern Love.
J'imagine que c'est
Modern Love. J'en ai plein. Je suis une folle de musique. Je ne sais absolument pas vivre sans musique. Si tu me demandes la chose qui doit rester, c'est la musique. Je trouve que c'est ce qui me donne le plus d'émotion et qui nous rappelle comme les odeurs de la nourriture.
Oui, oui.
J'ai écouté une chanson. Donc, j'ai mis une playlist en roue libre il y a 2 soirs de ça. Il y a une chanson qui s'est mise en route. J'ai pleuré au millième de seconde du début de la chanson, tellement elle était liée à un souvenir joyeux, malheureux. Donc voilà, il y a des choses qui sont incompréhensible. Et Modernov, ça me rend extrêmement heureuse, sautillante, bondissante. Et ça parle aussi de l'enfant que je cajole, que je dois encore découvrir, qui a eu des peines, avec lesquelles on doit tous vivre.
Oui. À qui on doit faire tous un gros câlin.
Oui, exactement.
Et pardonner.
Oui, tout à fait.
Bah écoutez, un tout grand merci Aline.
Merci Fred, c'était un plaisir. J'ai l'impression que j'ai dit tout et n'importe quoi, mais c'est très bien.
Non, c'était un très bel échange. Merci beaucoup.
Merci, merci à toi. Je te souhaite de dévorer mon banana bread bien accompagné,
oui,
ou toute seule.
Il sent très très bon.
Et j'espère que tu laveras le petit mouchoir et que tu pourras te moucher,
oui,
un jour avec.
Évidemment.
C'était le but. Hein. Merci et passe une bonne journée.
Merci.